Bonjour et bienvenue à Radio Galère. Donc aujourd'hui, je reçois un oiseau rare, Catherine Thumann, qui va nous parler d'un concept qui est la simplicité volontaire. Et surtout, elle va nous parler aussi d'un livre qui vient de sortir, qui va apparaître cette semaine. À Catherine, c'est ça, qui va apparaître
Oui.
cette semaine, qui s'intitule donc Vivre la simplicité volontaire. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais essayer de présenter Catherine Thumann. Catherine, tu as travaillé pratiquement pendant 3 ans comme secrétaire de rédaction au journal La Décroissance à Lyon,
Oui.
et où tu écris encore dans la rubrique Simplicité volontaire. Donc,
Oui, de temps en temps.
tu vas nous expliquer après. Après, tu as fait un long voyage avec Antoine, ton mari.
Oui.
Un long voyage à vélo, vous avez fait le tour de l'Europe.
Oui.
Et depuis 2 mois, vous êtes installés tous les deux sur Marseille. Et du coup, actuellement, tu es secrétaire de rédaction au SUQFD, donc un mensuel, un organe de presse mensuel de critique et d'expérimentation pardon, sociale. Voilà. Donc là, tu viens aujourd'hui pour nous parler du livre qui va apparaître, ce que je disais tout à l'heure, cette semaine, intitulé Vivre la simplicité volontaire chez les éditeurs Le Pas de Côté et L'Échappée.
Oui.
Voilà. Je te laisse la parole pour
Alors,
nous parler un peu de ce concept-là.
pour commencer, en toute petite introduction, je vais juste lire le début de la préface de Bruno Clémentin et Vincent Chesnais, qui sont les fondateurs de la revue Casseurs de Pub et du journal La Décroissance. Donc, je les cite. Dès la création du journal La Décroissance, la chronique Simplicité volontaire s'est imposée comme une évidence. Dans la société actuelle, ce sont les célébrités riches et parvenues qui sont vantées comme des exemples, entre guillemets, de réussite, entre guillemets. Un Bernard Tapie à l'ascension fulgurante, un Jacques Séguéla pour qui vivre sans Rolex est une déchéance, une starlette vue à la télé, etc. Les foules sont sommées de se conformer à ces modèles, entre guillemets, de les imiter, de rêver à un même parcours. Nous, nous voulions montrer d'autres chemins, hors des sentiers battus de la propagande médiatique. Des voies à contre-courant, empruntées par des hommes et des femmes qui savent, avec une grande force d'esprit, se poser des limites matérielles pour exister dans la plénitude de toutes leurs autres dimensions, philosophiques, culturelles, artistiques, spirituelles. Cette réussite ne se mesure pas avec des chiffres, y compris des indicateurs alternatifs. Elle s'éprouve tout simplement hors de la quête d'enrichissement. Voilà.
D'accord, ben merci. Moi, je commençais par te poser, pour peut-être éclairer un peu plus nos auditeurs, de te poser la question suivante. Alors, pour toi, c'est quoi la simplicité volontaire?
Alors, comme son nom l'indique, c'est pas très compliqué, la simplicité volontaire, ça veut dire essayer d'appliquer, de pratiquer au quotidien la décroissance. Donc, c'est-à-dire refuser l'accumulation infinie, refuser le slogan sarkozyste « travailler plus pour gagner plus », qui est un triomphe de l'idéologie capitaliste. Ça veut dire faire un pas de côté, prendre le temps de réfléchir, reprendre le slogan de L'An 01, qui est une bande dessinée de GB qui a été aussi un film. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Alors concrètement, il n'y a pas de modèle clé en main de la simplicité volontaire. C'est pas un mode de vie applicable avec des. Il y a des guides qui existent, mais voilà, c'est. Pour nous, c'est un choix de vie qui est appliqué par des personnes aux parcours très différents, aux milieux sociaux différents. Et souvent, la première démarche, elle consiste à se débarrasser de la télévision. Et aujourd'hui, chose encore plus difficile, des écrans. Qui
Avec
sont
Internet et les nouvelles technologies.
voilà les iPhones, les choses comme ça. Pourquoi? Alors c'est pour ne plus subir la publicité en grande quantité, essayer de ne plus rester passif devant des contenus qui nous sont imposés d'en haut, et surtout ne plus donner son, là je cite, temps de cerveau disponible à TF1 et Coca-Cola. Donc ça
D'accord.
c'est.
Pardon.
Et donc, voilà, c'est un gain de temps incroyable. On se plaint toujours de ne pas avoir le temps dans notre vie de fou. Et ben, quand on supprime la télé, on trouve beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Donc, par exemple, avoir une vie sociale remplie, voir ses amis, voir sa famille, lire des livres de papier, écouter de la musique, en faire, en jouer, faire du sport ou des arts créatifs, et aussi avoir des activités militantes. Le fait de se couper de ces 3 heures en moyenne, je ne sais pas aujourd'hui à combien on est en moyenne de temps passé devant les écrans, ça doit être beaucoup plus, mais ça dégage un temps pour vivre pleinement. Et voilà. Donc ensuite, il y a la télévision dont on peut essayer de se débarrasser, ce n'est pas compliqué. Ensuite, il y a aussi, pour moi, ce qui est très important, c'est la question du travail. Mmh. Le travail qui est toujours montré comme un symbole de réussite, d'ascension sociale. Et quand on fréquente le monde du travail, on se rend compte que c'est pas forcément... c'est pas toujours, en tout cas, une source d'épanouissement. Et ça peut même être très envahissant. La simplicité volontaire, c'est aussi se poser la question du sens du travail dans nos vies, de la place qu'on lui accorde. Et donc aussi de voir qui on est en dehors du travail. Et donc faire en sorte qu'avec ou sans travail, on puisse avoir une vie épanouie. Et aujourd'hui, c'est quand même une question importante parce que quand on voit le nombre de personnes qui subissent le chômage, faire du travail une valeur centrale, c'est aussi agresser ces personnes-là qui n'ont pas accès au travail. Et ensuite, il y a la voiture, la bagnole, pour parler...
Donc juste pour le travail, donc ce que tu voulais dire, c'est travailler moins pour gagner plus.
Pour gagner plus de temps.
D'accord, ok.
Et pour vivre un peu mieux. Voilà. Et puis, donc, un troisième volet, c'est donc la voiture, qui coûte en moyenne en France 6 à 8 000 euros par an dans les ménages. Donc après, c'est une moyenne. Quand on peut s'en passer, on peut se dire déjà qu'on fait de sacrées économies et qu'on peut garder cet argent-là pour d'autres activités. Et surtout, ça permet de savourer la lenteur de la marche, du vélo, de la trottinette, peu importe.
Est-ce que tout le monde peut s'en passer la voiture, justement?
Non, on est dans une société de la bagnole, donc pour certaines personnes, il est impossible, par exemple, de travailler sans voiture. Quand on vit à la campagne, dans des zones un peu isolées où il n'y a pas assez de transport en commun, c'est très très difficile de vivre sans voiture et on en est bien conscient. Après, on peut faire des choix, par exemple... Essayer de vivre, si on a envie d'être à la campagne, essayer de vivre près d'une gare, essayer de voir si les réseaux de transport en commun sont développés là où on habite, et pas s'isoler, et voilà, faire en sorte de ne pas être exclu parce qu'on n'a pas de moyens de transport à pétrole.
Et du coup, pour les partisans ou les pratiquants de la simplicité volontaire, il peut y avoir aussi une forme de revendication pour sensibiliser les pouvoirs publics à maximiser l'offre de transport collectif, par exemple,
entre autres. À libérer aussi de l'espace public pour le vélo, pour la marche, pour les personnes handicapées. Parce que quand on voit à Marseille quelqu'un en fauteuil roulant ou même des parents avec une poussette, c'est quand même un peu le parcours du combattant. Donc c'est des mesures politiques assez simples. On nous dit que ça coûte de l'argent, mais ils sont prêts à mettre des milliards dans des choses totalement inutiles. Donc on se dit qu'aménager l'espace public pour donner plus de place aux cyclistes, aux personnes qui font l'effort de se déplacer à pied, c'est quand même peut-être une priorité. Et donc en ça, en fait, en résumant, on rejoint un peu la chanson Hexagone de Renaud, « La bagnole, la télé, le tercier, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. » Là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense que quand on se débarrasse de ces attributs de la société de consommation, on a plus tendance à revivre qu'à mourir.
Est-ce que quelque part, c'est pas intéressant de replacer cette chanson de Renaud par la bagnole, la télé, le travail, à la place de Tiercé?
Le Tiercé, ça existe encore.
Ok. Alors, j'ai une autre question à te poser. Donc, je pense, elle te concerne directement cette fois-ci. Est-ce que toi, tu l'appliques, en fait, quotidiennement, cette simplicité volontaire?
Alors, j'essaye, tant bien que mal. Tout en étant absolument convaincue par les idées à rebrousse-poil de la décroissance, Je ne suis pas non plus une puriste. Je ne participe pas à une compétition plus décroissant que moi, tu meurs, qui est plutôt malsaine aussi. Se poser en modèle, je trouve ça assez insupportable. Mmh. J'ai beaucoup de contradictions. Par exemple, je fume des cigarettes. Ça, pour le coup, c'est une drogue dure. Et c'est une des choses dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et pourtant, j'en ai envie. On ne sait jamais, ça arrivera peut-être un jour. Sinon, j'ai pas de télé depuis 5 ou 6 ans. C'était un choix, c'était même avant de connaître la décroissance. Avec Antoine, on s'était dit qu'on perdait vachement de temps parce qu'on est tous les deux très absorbés par les écrans. On a grandi dedans. Donc on a décidé de l'enlever. À la place, on voit beaucoup nos amis, on sort, je joue du piano, je lis des bouquins. Antoine, il fait énormément de vélo, du jardinage et tout ça. Et donc on s'est dégagé du temps en enlevant la télé. Ensuite, on n'a plus de voiture parce qu'on a eu un accident. Et on s'était dit que quand on n'aurait plus de voiture, on n'en rachèterait pas, on n'avait pas les moyens. Cette voiture, c'était une petite AX, on nous l'avait donnée. Et puis cet accident, il nous a rappelé qu'en plus de polluer, la bagnole, elle peut tuer aussi. Bon, nous, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a même pas eu de blessure, mais on était quand même traumatisés. Et donc... On est parti un an sur les routes d'Europe en tandem. Donc ça, pour le coup, c'était une vraie expérience de simplicité choisie. On n'avait plus que l'essentiel, un vélo, une tente, deux duvets, une popote pour se faire à manger et deux t-shirts et un pantalon. Mmh. On prenait une douche par semaine, donc ça, c'était c'était très différent de notre vie quotidienne à Lyon. On consommait donc 6 litres d'eau par jour pour boire et faire à manger. On n'avait pas de téléphone ni de GPS. Et en fait, cette vulnérabilité assumée, choisie, personne ne nous a forcé à faire ça, elle nous a permis d'éprouver la solidarité, la générosité des gens dans tous les pays qu'on a traversés et de voir que quand on se met en situation de simplicité un peu extrême, on a une facilité à rencontrer son entourage qui est assez incroyable. On a été hébergés énormément, on a fait aussi beaucoup de camping sauvage, mais on a été vraiment reçus souvent comme des rois. Et aujourd'hui, du coup, on vit en colocation à 7, c'est peut-être que c'est une conséquence du voyage, je pense aussi.
Et d'accord, du coup, le voyage vous a permis quelque part... de vivre autrement la ville.
Ouais, par
la simplicité volontaire, c'est de...
En fait, c'est en passant chez... On a un peu squatté des colocs à Naples, à Athènes, tout ça, et on s'est dit, en fait, la vie en coloc, on a beau avoir 31 ans, c'est vrai qu'on est un peu les plus vieux de notre coloc, mais c'est une vie très riche. Nous, on est arrivés à Marseille, on était tous les deux au chômage, on avait dépensé toutes nos économies dans le voyage... Et du coup, l'accès au logement était complètement impossible. On avait un dossier totalement pourri. Et en fait, nos colocs, ils nous ont fait confiance. On est partis faire les vendanges. Et ça a été un échange. Et c'est encore aujourd'hui un échange incroyable. On partage la nourriture. On essaye de faire le marché. Tous les mercredis, le marché paysan de la plaine. On essaye de faire attention à ce qu'on consomme, pas trop dépenser, pas manger trop de viande, etc. Et voilà, puis c'est une expérience de vie en communauté, donc on n'est pas tout seul et on est bien heureux comme ça.
D'accord, ok, super. Mais est-ce que quelque part, la simplicité volontaire, c'est pas un truc de bobo ?
Alors, tu veux m'énerver ? Alors ça, on l'entend beaucoup. C'est sûr. Bien sûr que la simplicité volontaire, c'est porté aussi par des personnes issues de classes bourgeoises, des personnes qui ont un capital culturel, pour parler Bourdieu, et capital social parfois élevé. Mmh. Donc c'est souvent ces personnes-là que les médias vont chercher. Donc c'est souvent celles-là qui sont présentées. Mais moi, en 3 ans d'interview de personnes vivant la simplicité volontaire, je peux témoigner du fait que je n'ai pas interviewé beaucoup de bourgeois. Mmh. En général, c'était plutôt des personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté officiel et qui s'en vantait pas, mais qui, voilà, qui concrètement vivait avec vraiment trois fois rien. Et souvent des personnes qui étaient issues de milieux en fait populaires. Par exemple, j'ai interviewé pas mal de personnes âgées qui étaient originaires de milieux plutôt pauvres, que ce soit milieu paysan ou milieu ouvrier. Et en fait, quand elles témoignaient, c'était assez chouette parce que pour elles, c'était complètement naturel de ne pas gaspiller, de faire attention à notre façon de vivre, de garder du lien avec les autres. Et c'était souvent aussi des personnes qui avaient un regard assez élevé sur la société parce qu'elles ont traversé une époque de la guerre à aujourd'hui. Elles ont vu l'essor de la société de consommation et elles ont vu à quel point ça avait détruit le lien social. Mmh. Voilà. Et par rapport à cette question des bobos, il y a Noël, ma mère, qui a prétendu que le mouvement de la simplicité volontaire était né sur la côte ouest des États-Unis, dans la Silicon Valley, parmi les youpies de l'informatique qui se sont transformés en bobos. Donc ça, c'est une citation de Noël, ma mère, un grand écologiste français, journaliste et chanteur aussi à ses heures. Et cette affirmation, elle est complètement fausse. On ne peut pas dater l'émergence de la simplicité volontaire, de la sobriété, de la capacité à se contenter de peu. Mais en revanche, on sait que ces vertus, elles sont pratiquées depuis la nuit des temps par nos aïeux.
Donc, quelque part, c'est une philosophie de vie qui date de très, très, très longtemps.
Oui.
Pas seulement de quelques années.
Non, c'est Noël, ma mère. C'est le sens de la mesure. C'est une valeur qui est fondamentale dans les sagesses populaires, les philosophies, les morales. Et je vais même dire un gros mot, mais toutes les religions du monde prônent la simplicité, en fait, que ce soit le bouddhisme ou l'islam, ou le christianisme, la simplicité et le fait de vivre dans la mesure, c'est central dans tous ces domaines. Et souvent, on aime bien reprendre un précurseur de la décroissance, Épicure. Bon, alors après, peut-être que c'est anachronique, mais sa pensée, elle a été assez falsifiée. Elle est présentée comme un hédoniste, comme quelqu'un qui prône la jouissance sans entrave. Parfois, on entend des choses assez surprenantes sur Épicure, alors que lui, en réalité, il estimait que l'opulence, elle se trouvait chez ceux qui savent se contenter de peu et se suffire à eux-mêmes. Donc c'était vraiment un appel à la sobriété. Ensuite, la simplicité volontaire, tu m'arrêtes si je suis trop longue.
Non, mais vas-y.
La simplicité volontaire, elle va aussi à l'encontre du mimétisme ostentatoire. C'est un gros mot inventé par Hervé Kempf, je crois. Ça c'est créé par la télé, les médias, entre autres. On nous montre des riches qui se prélassent là, dans leur jacuzzi, qui se déplacent uniquement en avion parce que c'est plus rapide et qui semblent jouir d'une rente sans travailler et tout ça. Donc c'est des modèles qu'on voit tous les jours, j'imagine, à la télé. Et ça génère des frustrations énormes, ça suscite l'envie d'avoir plus, peut-être pas comme eux, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne vivra jamais comme ça, mais un peu quand même. Donc la décroissance, elle s'attache à montrer la beauté des cultures dites populaires. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de la misère, loin s'en faut, mais plutôt de la pauvreté au sens noble du terme. Au sens où l'entend, par exemple, Majid Ranema, qui est un intellectuel iranien, dans son livre « Quand la misère chasse la pauvreté ». Et donc lui, il montre comment le capitalisme a détruit les cultures populaires pauvres, et il essaye de redonner de l'importance et de la valeur à des aspects forts dans les cultures populaires, qui sont la convivialité, le partage, l'échange de biens non marchands. Et donc voilà, il dénonce un peu la transformation de la pauvreté en misère.
D'accord, ok. Et du coup, justement, par rapport... est-ce qu'il n'y a pas un côté, quelque part, nostalgique de ce fonctionnement des sociétés traditionnelles précapitalistes? Est-ce que, quelque part, en fait, que ce soit la décroissance ou la simplicité volontaire, il n'y a pas quelque chose d'utopique où on est presque impossible de retourner au fonctionnement un peu traditionnel dans les sociétés précapitalistes?
Bah, c'est difficile d'être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu. Mais effectivement, on parle souvent dans la décroissance des sociétés précapitalistes, justement, de leur fonctionnement, du fait qu'à l'époque, le travail servait à combler les besoins primaires et qu'on avait peut-être un peu plus de temps pour d'autres choses. Et donc non, on prône pas un retour à la bougie, même si ça serait plutôt romantique, mais on essaye de s'interroger et de regarder le passé. C'est pas interdit de D'accord. regarder le passé, quoi.
Ben. Mm. Ben, du coup, je pense qu'on va faire une petite pause musicale.
Avec Moustaki.
Voilà. Okay. Et après, on va retrouver nos auditeurs.
Ok.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Donc, on continue avec l'oiseau rare, Catherine Thumas, donc sur le simplicité volontaire. Alors, donc, tout à l'heure, tu disais, donc, tu parlais de, donc, on parlait, je pense, de côté nostalgique des pratiquants de la simplicité volontaire par rapport à la société précapitaliste ou traditionnelle.
Oui.
Donc, tu disais que oui, quelque part, vous êtes un peu nostalgique de cette période-là, mais il n'y a pas que ça.
Oui, on est nostalgique, mais ce que je disais, c'est qu'on ne l'a pas vécu. Donc, on peut aussi, il faut rappeler qu'il y a eu quelques avancées sociales depuis et qu'on ne regrette pas, on rejette pas tout en bloc non plus. Mais non, parce que ce qui nous est interdit de faire aujourd'hui, sous peine d'être taxé de réactionnaire, de rétrograde, alors les pires insultes de la société actuelle, c'est de regarder en arrière, en fait, de s'autoriser. C'est Jean-Claude Michéa, je crois, qu'en parle très bien. Je crois que c'est le mythe d'Orphée, mais je suis pas sûre. Pardon pour mon manque de culture, mais voilà, il est interdit de se retourner en arrière. Il faut toujours monter, et surtout ne pas se retourner. Et les partisans de la décroissance, eux, ils se plongent effectivement dans le passé pour voir ce qu'on peut en retirer, les leçons qu'on peut en recevoir. Par exemple, moi, j'aime énormément rencontrer des personnes âgées parce que c'est des puits de science, qu'elles soient issues de milieux éduqués ou pas, peu importe, c'est des personnes qu'ont vécu, c'est des livres à elles seules. Et elles sont des grands témoins aujourd'hui et avec elles, on peut apprendre beaucoup. Et on est dans une société qui rejette les personnes âgées, qui les parque. Et je pense que c'est une grande erreur parce que ces personnes-là ont énormément à nous apporter. Nos grands-parents sont des sources d'inspiration pour certains, peut-être pas tous, hein, bien sûr, mais en tout cas, dans une partie, c'est des personnes dont on pourrait s'inspirer plutôt que de se moquer de la vieillesse et mettre en avant le jeunisme. Je pense qu'on ferait bien de regarder en arrière et avec eux et profiter de leurs paroles tant qu'ils sont encore là.
Voilà. D'accord. Je voulais aussi te poser une question par rapport aux gens que tu as rencontrés en fait, pendant pratiquement 3 ans dans tes interviews. Moi, est-ce que quelque part, pour eux, c'est le choix de vie de simplicité volontaire, est-ce que c'est un choix contraint ou plutôt un choix délibéré, volontaire?
Alors, ça dépend des personnes. Y a certaines personnes, et elles sont nombreuses, qui subissent le déclassement. C'est un traumatisme, l'épreuve du chômage, de la galère. C'est pas juste les fins de mois difficiles, mais les mois tout entiers difficiles, et parfois des années. Donc c'est pas forcément évident, quand on est né dans les soucis matériels, d'y voir du positif. Mais parmi les personnes que j'ai interviewées, beaucoup prenaient en fait le parti de vivre différemment, plus simplement, à partir d'un accident de vie parfois douloureux, qu'il soit professionnel ou psychique. J'ai rencontré beaucoup de personnes, et ça m'a vraiment surprise pendant les interviews de la simplicité volontaire, de personnes qui avaient traversé des périodes, par exemple, de dépression, parfois courtes et parfois plus longues. Et en fait, c'est des personnes qui se sont battues pour survivre et pour retrouver une place dans la société et essayer de vivre bien. Et souvent, leur démarche, ça a été de simplifier leur vie, de voir les sources de mal-être qui pouvaient être très souvent le travail, hein, qui reste tripalium, un instrument de torture pour beaucoup. Et donc, ces personnes-là, Elles témoignaient de cette violence qu'elles avaient subie et du fait qu'elles en ressortaient peut-être plus fortes et armées pour vivre mieux avec effectivement moins. Et après, il y a aussi des personnes qui choisissent de se déclasser socialement. Par exemple, j'avais interviewé un ancien journaliste de France 3 qui était devenu artisan, fabricant de jouets. Et donc, il gagnait vraiment plus grand-chose. Il avait du mal à en vivre. Sa femme était couturière dans une petite boutique en Bretagne. Mais voilà, ils avaient fait ce choix-là. C'était un choix assez courageux. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec très peu de revenus, 3 enfants à élever. Et j'étais allée chez... C'était ma première interview de la simplicité volontaire, donc j'étais assez surprise.
Marquée, ouais.
Et donc, ces personnes-là, elles avaient fait le choix de, de, d'avoir une vie moins riche, entre guillemets, en termes financiers. Et il s'en sortait. Mais ce n'était pas facile. C'est quand même une lutte au quotidien. Il faut bien voir que la simplicité volontaire, c'est quand même une lutte parce qu'on est dans une société qui nous juge aussi, qui nous dit « Ah ouais, t'es bien malin avec tes belles idées, mais regarde, t'as telle contradiction. » On nous montre du doigt, on n'hésite pas à appuyer sur nos failles. Parce qu'en fait, je pense que les personnes qui pratiquent la simplicité volontaire provoquent un espèce d'effet miroir. Les gens, en les voyant, se disent « Oh là là, oh là là, il me culpabilise, il veut se montrer comme quelqu'un de parfait », alors que c'est pas forcément la démarche de la personne, c'est juste qu'elle fait des choix personnels qui n'impliquent qu'elle et qu'elle impose pas aux autres, quoi. Et par exemple aussi, par rapport aux choix contraints ou choisis de la simplicité volontaire, j'ai eu une très bonne amie qui était au RSA pendant des années parce qu'elle était trop fragile pour intégrer le monde du travail. Et donc, à chaque fois qu'elle allait dans le monde du travail, elle se prenait des portes et ça finissait mal parce qu'elle était vraiment, vraiment fragile. Donc, pendant plusieurs années, elle est restée au RSA. Mais il faut voir ce qu'elle a donné pendant ces années-là à la société. Elle aidait les familles roms à se loger sur Lyon. Elle ouvrait des squats partout. Elle faisait partie d'un groupe de punk. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle a pu s'occuper sans compter de sa mère qui était atteinte à l'époque d'un cancer en phase terminale. Et à l'époque, mais elle s'en vantait absolument pas, mais elle passait un temps fou à l'hôpital, à s'occuper d'elle. Et c'est une personne qui travaillait pas, donc qui, aux yeux de Nicolas Sarkozy ou même de François Hollande ou de Rebsamen, n'a aucune utilité sociale. Mais cette personne-là, elle avait une utilité sociale énorme. Et aujourd'hui, elle a retrouvé une formation et elle s'épanouit dans autre chose. Mais pour moi, c'était vraiment un exemple de personne qui ne travaille pas, mais qui a une utilité sociale.
Et justement, par rapport à cette utilité sociale, je voulais te poser une question aussi par rapport au vivre ensemble. Est-ce que quelque part, des modes de vie par la simplicité volontaire, aujourd'hui, on sait très bien qu'en France, il y a une crise de vivre ensemble, car c'est plutôt, comme tu disais, comme on le cite tous, c'est plutôt les médias qui fascinent et façonnent l'opinion publique. Donc, il y a une forme de tension un peu électrifiée, en fait. Est-ce que quelque part, donc, sensibiliser les gens sur le mode de vie de simplicité volontaire par rapport à réfléchir, penser le travail autrement, ne pas regarder la télé, parce qu'aujourd'hui, c'est la télé qui manipule, réduire l'usage de la voiture particulière. Et est-ce que quelque part, ce n'est pas l'une des alternatives pour un meilleur vivre ensemble? Ce que je voulais dire par ma question, est-ce que les pratiquants de la simplicité volontaire, est-ce que aussi, entre autres, ce qui les intéresse aussi, c'est d'arriver, entre autres, effectivement, à vivre tous dans une société, harmonieuse, sans vraiment être utopiste. Je ne sais pas si je suis clair, je ne sais pas si ma question est claire.
Un des slogans des partisans de la décroissance qui militent au niveau politique, c'est moins de biens, plus de liens. Oui. Et donc l'idée, c'est justement de se dégager du temps pour aller à la rencontre de tout le monde. C'est-à-dire aller, par exemple, distribuer des tracts sur les marchés, se présenter à une élection, que ce soit de manière individuelle ou collective.
Donc le mode opératoire, c'est ça quoi?
Il y a plein de modes opératoires. Tout le monde fait un peu à sa guise. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas s'investir en politique, par exemple, mais qui vont qui vont être présentes sur toutes les Vélorussions, les manifs à vélo qui ont lieu une fois par mois, le premier vendredi du mois à Marseille, à 20h30 à Girafe. Et du coup, il y a des personnes qui vont s'attaquer plus à la question du gaspillage et qui vont aller dans la rue distribuer de la nourriture qu'ils ont récupérée gratuitement. Alors, donc là, ça crée du lien.
Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas vu, enfin, quand je dis vous, donc tous les gens qui, effectivement, qui sensibilisent d'autres personnes pour la simplicité volontaire, est-ce que vous n'êtes pas vu quelque part comme des extraterrestres, un peu des religieux de l'écologie ou un truc comme ça ?
Bah si, toutes les insultes, on les énumère dans la décroissance. Chaque mois, on reçoit des insultes dans tous les médias, les grands médias nationaux. On est des ayatollahs verts, on est parfois aussi des hyclérobolcheviques. on a un peu reçu toutes les insultes possibles et imaginables, effectivement. Et nous, on préfère en rire parce que c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux du tout. Sur le fond, il y a aucune attaque.
Non, mais sans ces critiques un peu, je dirais, insultantes, mais il y a d'autres critiques qui sont, je pense, constructives et positives pour vous, non ? Il n'y a pas que vous êtes des extraterrestres ou des ayatollahs de l'écologie, mais aussi, il y a peut-être aussi des critiques qui sont aussi effectivement objectives.
Oui,
par exemple,
bien sûr.
Vivre son frigo c'est quand même un peu compliqué. La bagnole, ça se comprend, mais vivre sans frigo, c'est un peu compliqué, je pense.
Ouais, mais après, personne n'est obligé de vivre sans frigo.
D'accord.
C'est des choix personnels. Par exemple, j'ai un frigo.
Ok. C'est très bien. Alors, moi, j'ai une autre question à te poser encore. Enfin, j'en ai encore plusieurs. Et du coup, c'est marrant parce que moi, je découvre aussi ce concept par ton intermédiaire, quoi. Mais en fait, je m'étais rendu compte que dans chacun de nous, il y a un peu de simplicité volontaire.
Ah oui.
Et après, justement, donc c'est juste est-ce qu'elle est étiquetée ou pas étiquetée, mais je pense effectivement elle existe chez beaucoup de gens, quoi. Et justement, je voulais te poser cette question. Est-ce que ça suffit de vivre la simplicité volontaire ?
Non, la simplicité volontaire, c'est vraiment le volet individuel de la décroissance. Donc c'est juste mettre en cohérence ses idées avec ses actes au quotidien. Donc c'est intéressant, c'est nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. Si c'est pour vivre dans son coin, très bien, manger sainement, manger bio, avoir une vie parfaite, mais rester dans l'entre-soi, c'est absolument pas intéressant. La décroissance, elle favorise aussi l'implication dans la société, donc dans la vie de la cité. Et elle prône l'engagement politique, par exemple, ou l'engagement collectif.
Mmh. Ouais. Bon, on va du coup mettre une deuxième pause musicale et puis on va continuer avec Catherine. Et donc là, on va écouter, je pense, Renaud.
La chanson du dimanche.
La chanson du dimanche, alors.
Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche. 2, 3, 4. J'avais le pouvoir d'achat. Ah, j'achèterais plein d'objets sans fil. Ah, j'achèterais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais des boîtes en plastique. J'achèterais une tente Quechua. Aujourd'hui on ne sait jamais. Je t'offrirai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. de le pouvoir d'achat. Je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait, je ferai un camembert président. Celui qui sent des pieds, lui, c'est le président. Il sent des pieds, je m'abonnerai à la piscine. Puis j'irai chez le podologue, me faire enlever une verrue. Je ferai des heures de Vélib, je m'achèterai un barbecue. Avec un allume-barbecue, je m'achèterai un Rottweiler pour protéger mon barbecue.
Puis je placerai,
oui,
1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas, un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus. Toujours un peu plus, un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la. La 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 la.
Allez, salut, à dimanche prochain. Oh la 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 la.
Donc on continue avec Catherine. Donc, alors, il nous reste pratiquement donc une vingtaine de minutes. Je voulais te poser justement la question sur, sur qu'est-ce que tu as marqué parmi tous ces témoignages-là, toutes les interviews que tu as effectuées pendant les 3 ans. Il y a sûrement des gens qui t'ont marqué plus. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu peux nous raconter un peu
Je vais... Et tous les témoignages, en fait, ils sont marquants, et d'ailleurs pas juste les miens, parce que dans le livre édité par Cédric Biagini et Pierre Thiessé, il y a aussi des textes de Pierre Thiessé, Vincent Chenet, Sophie Divry et Joël Fernandez aussi, et Sophie Chapelle, je crois. Donc on est plusieurs à faire ces recueils de témoignages. En fait, ce qui est marquant, c'est que... Pour des journalistes, on prend le temps d'aller vivre chez les personnes qu'on interviewe. Donc à chaque fois, c'est un peu une expédition. Je pars avec mon sac à dos, je prends le train. Parfois, je fais du vélo. Une fois, j'ai dû faire peut-être 40 km pour rejoindre des personnes. Et bon, c'est pas énorme, mais... Et voilà. Et donc à chaque fois, je passe en minimum... j'essaye de passer 2 jours avec les personnes qui témoignent dans la simplicité volontaire. Donc c'est toujours assez marquant parce qu'on rentre dans l'intimité, on observe une façon de vivre qui est différente de la nôtre, et on s'en inspire. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois, je revenais de ces interviews avec plein d'envie, plein d'idées, et en plus, souvent, des confitures, des pots de miel, des petites recettes, des trucs tout sympas. Et voilà, et donc ça, à chaque fois j'en revenais enrichie, et j'ai essayé de garder contact le plus possible avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre-là. Donc dans le livre, je vais prendre, c'est difficile de dire quel témoignage m'a le plus influencé ou marqué, mais je vais prendre ceux du livre. Donc pour leur radicalité. C'est Henri et Roselyne qui sont en page 77. Et donc, eux, c'est un couple qui vit dans les Landes et qui vient du Nord ouvrier, qu'ont vécu une enfance plutôt pauvre et difficile. Et donc, le titre de leur interview, là, qui a été refait par Cédric et Pierre, c'est « En grève générale tous les jours ».
D'accord.
Et donc, eux, j'ai débarqué dans leur vie. Je suis arrivée dans une gare, je ne sais plus trop dans quelle ville. Mais ils m'ont emmenée, ils m'avaient amené un vélo pour les suivre et trouver leur maison. Et donc là, on a fait peut-être une vingtaine de kilomètres dans les forêts des Landes. Et là, on est arrivé, on a pris un sentier. Enfin, moi, j'étais complètement perdue dans la forêt. Et on est arrivé à leur maison, et c'était une toute petite maison de bois fabriquée par eux-mêmes. Ils avaient vécu peut-être 10 ans en caravane pour pouvoir s'acheter un bout de terre dans les Landes. Et donc, elle faisait 19 mètres carrés, leur maison. Et ils vivaient, ça leur arrivait de passer un mois en ne dépensant que 2,50€ pour la décroissance, pour acheter le journal.
D'accord, c'était, leur frais quotidien, quoi.
Leurs frais mensuels.
Mensuels, d'accord.
Donc eux, c'est un exemple extrêmement radical. Oui. C'est pas du tout... Là, c'est vraiment juste complètement fou pour nous. Et donc, ils avaient des poules, ils avaient des légumes. Ils m'avaient fait une poule au pot, je me souviens. Et moi, je dormais dans une caravane, dans leur caravane. Et à 6h du matin... Elle m'a amené une petite bassine avec de l'eau pour ma toilette, parce qu'ils n'avaient pas l'eau courante.
D'accord.
Voilà.
Super. Du coup, alors, c'est un témoignage assez intéressant. Et du coup, je pense qu'il reste encore un quart d'heure. Et on va passer encore une fois, on va faire une petite pause musicale.
Bah sinon, on peut...
Ou tu peux enchaîner directement, comme tu veux.
Ouais, on peut parler aussi. J'aimerais bien pas rester juste sur un témoignage aussi extrême.
Ok.
Même si c'est marquant. Je pense à Julie, qui est de Marseille. Je l'ai pas revue depuis qu'on est arrivé. Mais elle était assistante sociale à la prison des Baumettes.
Et c'était en quelle année, ça?
Je sais plus. Il y a 3-4 ans.
Ok.
Et c'est une fille qui faisait du vélo partout dans Marseille, qui animait une émission sur Radio Galère, je crois. Voilà. Et elle m'avait cité Didier Tronchet, l'auteur du Petit Traité de Vélosophie, qui disait « On voit tous ces gens aller au salon de l'auto, on n'imaginerait pas les souris aller au salon du chat.
Ouais. » Excellent. Excellent. Du coup, allez, on va peut-être faire encore une petite pause musicale, toujours dans le même sens. Là, cette fois-ci, c'est Renaud, si je ne me trompe pas.
Monsieur le Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés, et puis les militaires, les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con. Je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas. Je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser des chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard. Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut.
Donc, alors, on continue toujours avec Catherine. Bon, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Je voulais justement te poser la question, après donc, ton installation sur Marseille, et après ce long voyage à vélo en Europe. Donc, tu as enchaîné, tu as commencé à travailler, comme ce que je disais au début, comme rédactrice, secrétaire de rédaction à CQFD.
Oui.
Alors, pourquoi CQFD ?
Alors, CQFD, c'est un mensuel, comme tu l'as dit au début, de critique et d'expérimentation sociale. Je les ai rencontrés par hasard à une soirée organisée par Radio Galère. Coup de chance, ils m'ont dit qu'ils cherchaient une secrétaire de rédaction. Donc là, pour l'instant, pour des raisons administratives, je suis bénévole parce que les contrats aidés en ce moment, il n'y en a plus. Mmh. Du coup, voilà, mais ça c'est pour l'aspect, pour le détail. Mais c'est un mensuel que j'aime beaucoup, que je connaissais un peu en travaillant à la décroissance, parce qu'on n'est pas nombreux dans la presse indépendante sans pub. Mmh. Donc à Marseille, il y a le Ravi qui est très connu. Mais bon, voilà, il y a CQFD, Fakir, Article 11, pour ne citer que. Et donc, bah, pour moi, c'était une chance inestimable de pouvoir aller travailler dans un journal sans pub, parce que j'ai fait l'expérience des journaux avec pub, et ça s'est toujours très mal fini. Donc là, pour moi, c'est une grande chance, et je découvre un journal très ouvert qui traite un peu de tout, donc qui est généraliste en fait. Donc ce mois-ci, par exemple, on a un gros dossier sur qu'on a appelé La mort qui tue. Donc c'est un petit peu macabre, mais c'est intéressant. Il y a des articles sur, par exemple, des gardiennes de cimetières, sur les délires transhumanistes qui rejoignent d'ailleurs ce qu'on dénonce à la décroissance, donc l'absence de limites et la croyance un peu en la vie éternelle, comme si on n'avait pas de fin. Et il y a aussi toute une page, évidemment, sur ce qui s'est passé au Testet, un reportage de Célia, qui était sur place le week-end où Rémi Fraisse a été tué par une grenade. Donc elle revient sur ces deux journées, en parlant pas que de Rémi Fraisse, mais en montrant un peu comment cette mort était un peu annoncée, en fait. Voilà. Et sinon, on a une page sur les Moulins Morel, qui est une usine fermée depuis un an et qui est occupée par les ouvriers, qui sont très courageux, qui ont décidé de garder tant que possible leur outil de production. Donc voilà, ça c'est une page réalisée par Bruno Le Dantec. Et puis sinon, on a un article sur le cirque, un article sur le junking. Voilà, plein de bonnes choses.
D'accord. Donc, on vous invite à acheter alors le CQFD de ce mois-ci.
Ouais, et celui du mois d'après aussi.
Et celui du mois d'après, qui va être sur quoi ? T'en as une idée ou pas pour le moment ?
Non, je ne révèle pas les secrets de la fabrication.
Ça marche. Et du coup, on arrive finalement à la fin de l'émission. Merci beaucoup Catherine, merci Radio Galère, merci Diallo,
Radio Galère.
C'est super cool. Et puis à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Ciao. Radio.
Galère. 88.4.